Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission sur l'actualité du polar, présentée par Corinne
et Jacques. Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un excellent roman que j'ai découvert il y a peu de temps, mais qui m'a vraiment enthousiasmée. C'est un roman qui s'appelle Dola. C'est paru chez Krakoen et l'auteur, en est Françoise Laurent. Et nous accueillons Françoise Laurent pour parler ensemble de ce livre. Bonsoir Françoise Laurent.
Et bonsoir Corinne, bonsoir Jacques. Et
merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, je disais que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce roman. Deux petites minutes quand même sur vous. Donc, vous êtes prof?
Oui, 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 je suis prof des écoles, intervenant aussi en collège d'ailleurs, mais... Voilà, je suis prof des écoles, exactement. Oui.
Voilà, et vous passez beaucoup de temps de libre à écrire. Donc j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est certaines de vos rencontres avec des gens comme par exemple Jean-Claude Izzo qui vous ont un petit peu orienté vers le polar, c'est vrai ?
Oui, oui, c'est vrai. En fait, on avait fait avec Marguerite Tiberti du Ricochet un roman collectif qui s'appelait 13 rue Saltalamacchia il y a quelques années.
C'est une excellente idée d'ailleurs, voilà, que ces romans collectifs.
Et oui, et puis elle avait réuni donc 13 auteurs de la région niçoise ou du sud, et entre autres il y avait Reynald, Izzo, Konopnicki, Brigitte Aubert, et disons que le contact, travailler avec eux, bon, moi j'étais une lectrice de polar déjà avant, hein, mais ça m'a, voilà, je crois que ça a profondément influencé mon écriture.
Depuis qu'on vous suit, c'est-à-dire depuis Une dent dans les fraises, effectivement, oui. Vous êtes tombée dans le noir. Hein.
Voilà, je suis tombée dans le noir, oui.
Voilà, alors donc l'actualité, c'est ce livre, Dola. Alors je tiens à préciser, Dola, pardon, je tiens à préciser au tout début le prix, parce que maintenant, un très bon roman pour moins de 10 euros, c'est une aubaine.
Oui.
Donc c'est un livre, ces éditions sont super, 9 euros, c'est vraiment un prix très abordable pour tout un chacun. Et donc dans ce livre, vous mettez en scène une bande d'anciens 68ards qui, on peut le dire, sont entrés en quelque sorte en résistance. Mais attention, on est en train de fêter les 40 ans et vous, l'excellente idée, c'est de situer le livre en 2018.
Et oui, aux 50 ans, carrément. Oui, les 50 ans de 68, j'ai sauté 10 ans et j'ai anticipé à la fois bon l'état de nos 68ards, hein, un petit peu, faut bien dire, et puis surtout l'état de la société dans 10 ans. Voilà.
Voilà, oui, je crois que c'est ce qui m'a vraiment interpellée et beaucoup plu dans ce roman. C'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que le roman noir, c'est la description de la société, de ses travers actuellement. Et ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que on est dans 10 ans, donc on n'est quand même pas dans l'anticipation et dans la science-fiction. Mais on voit les jusqu'au boutisme, en quelque sorte, en fait, de ce qui nous attend, et c'est pas rose du tout.
Et oui, c'est une sorte de... J'ai continué en me disant, et si la logique actuelle va jusqu'au bout, quoi ? Si on continue dans le chacun pour soi, si on continue dans le libéralisme à fond, si on continue dans la suppression des services publics, ben voilà, j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait donner. Et en effet, c'est plutôt noir.
C'est plutôt très noir. Alors, comme témoin de cette vision noire, il y a une bande, comme je le disais, d'ex-68ards, qui sont réunis pour commémorer, fêter, en quelque sorte, le décès de Dola. Je dis fêter parce qu'ils ne veulent pas que ce soit triste quand même, qui était la compagne d'Augustin.
Oui.
Et donc, tout ce petit monde des anciens rebelles se réunissent et il y a d'autres morts suspectes. Ça reste quand même, vous avez quand même voulu mettre une énigme dans cette description de roman noir.
Oui, c'est un vrai polar dans la mesure où des gens meurent et qu'il faut comprendre pourquoi ces gens meurent. Et voilà, ça paraît au début des morts naturelles et en fait on se rend compte que ce ne sont pas des morts naturelles. Donc il y a une sorte d'enquête qui n'est pas menée par un inspecteur mais qui est menée donc par Augustin quelque part, hein, donc le mari de Dola. Et voilà, c'est... Mais il faut quand même préciser que c'est tous ces personnages, en fait, ils se réunissent pas seulement pour par rapport à la mort de Dola, mais ils vivent en communauté, certains depuis quelques années, parce que les retraites ne suffisent plus à vivre, et puis ils ne peuvent pas être seuls non plus, ils ne veulent pas être dépendants, donc ils ont fait leur sorte de, si on peut dire, maison de retraite à une dizaine, quoi, et ils vivent en communauté, voilà. Et donc, à la mort de Dola, il y a d'autres amis qui y viennent, et les enfants, surtout, les enfants qui viennent d'un peu partout en France. Voilà.
Ouais, et là, on a une très très belle description, je dirais familiale, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler depuis justement 68 du conflit des générations, et on voit des trous qui se comblent ou des trous qui s'élargissent entre ces différentes générations, entre la génération d'Augustin et de ses fils et de ses petits-enfants. Ce qu'on voit aussi, vous disiez, c'est vraiment Augustin qui et sa bande qui enquêtent, parce que la police, elle est aussi suspecte que tout le monde, quoi, en fait.
Oui, disons, avec ma vision de la société telle qu'elle va, et plutôt qu'elle va mal, il n'y a plus non plus de vraie police d'ici quelques années, et ce seront, d'après moi, des milices payées au rendement, donc avec tous les débordements que ça peut susciter, dirons-nous. Hein. Donc évidemment, la police est très critiquée, mais la police telle que je la vois, ce n'est plus la police, quoi.
Ce n'est plus la police, oui, voilà, précisons, oui. C'est pas une critique amère, acerbe du flic du coin, non.
Absolument
pas du tout.
Absolument pas, non, et d'ailleurs, à un moment, Augustin dit même qu'il leur tirait leur chapeau à ces flics d'avant qui, avec peu de moyens, réussissaient quand même à faire des choses, voilà. Mais maintenant, dans la société telle que moi je la vois ou je l'imagine, ce n'est plus du tout ça. Voilà.
Oui, comme vous avez dit, le mot milice convient beaucoup plus à ces gens qui n'en ont absolument rien à faire, en fait, des êtres humains. Deuxième chose qui va très très mal, c'est le domaine de la santé, c'est-à-dire la médecine, tout ce qui est sécurité sociale, et puis cette espèce d'assainissement. Alors évidemment, on sait très bien qu'on peut plus fumer nulle part, mais là, c'est une vision carrément terrifiante. Des lois qui ont été promulguées entre 2008 et 2015, qu'on va dire.
Oui, ben, disons qu'on est dans une société qui se veut hyper sécurisante, hyper sans danger, alors qu'on nous pourrit la vie avec plein d'aliments frelatés et tout. Mais bon, normalement, c'est comme ça. Donc, en conduisant la logique, en effet, on ne peut plus ni fumer ni boire, bien évidemment, mais on peut plus non plus accoucher normalement, on peut plus procréer normalement sans assistance médicale. Enfin, ça devient toutes les conduites à risque, disons, ne sont plus remboursées, et dans les conduites à risque, il y a à peu près tout, quoi, de toute façon.
Oui, il y a tout ce qui fait le charme.
Tout ce qui fait le charme de la vie,
qui existait il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement, donc, est-ce que il y a la critique du système actuel et de nos petites vies actuelles, comme vous l'avez très bien dit au départ, de cette espèce d'égoïsme qui nous tient un peu tous, il faut bien le reconnaître quand même, il y a beaucoup d'autocritiques, enfin, je le prends aussi pour nous. Mais c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi un petit constat d'échec de ces années-là, justement, de ces 40 ans de 68 qu'on est en train de fêter et qui finalement aboutissent à pas grand-chose maintenant?
Ben, un constat d'échec. C'est sûr que mon Augustin est très aigri, dirons-nous, par rapport quand il se remémore les enthousiasmes de ses 20 ans, les espoirs d'une société différente, et quand il voit le résultat. Là-dessus, on peut que être d'accord, je pense. Hein. C'est pas vraiment ce qui avait été imaginé comme société.
Hein.
C'est pas vraiment ça. Donc, il y a le regret. En même temps, il y a le fait de dire, on n'y peut rien. La société, la mondialisation, les choses nous échappent. On peut pas tout, on n'a pas pu tenir les rênes. Et bien évidemment, je veux dire, il y a pas non plus un mea culpa. Il y a un regret énorme, c'est certain. Hein. Mais ce qu'il y a dans ce livre, c'est que c'est vrai que moi, j'avais envie d'un brin d'optimisme, si on peut appeler ça de l'optimisme. Et donc, quelque part, qu'est-ce que... ils sont mis un peu au pied du mur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant à leur âge pour quelque part réaliser leur rêve de mai 68?
Oui, et d'ailleurs, je voudrais aussi recadrer un petit peu, on a beaucoup parlé de noirceur, j'ai parlé d'un roman très noir et tout, mais c'est un roman qui est plein d'humour aussi. Bon, c'est sûr que cette bande de vieux qui part dans le vieux combi Volkswagen pratiquement à la poursuite de pseudo-meurtriers ou de meurtriers, je veux pas dévoiler la fin, il y a des scènes qui sont totalement hilarantes, donc c'est un roman qui est aussi très drôle, qui n'est pas complètement d'une noirceur absolue. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la tendresse dans laquelle vous enrobez vos personnages. Vous parlez beaucoup d'Augustin. Mmh. Augustin, c'est un personnage que vous aimez beaucoup. Vous avez eu envie de mettre beaucoup de choses dans ce personnage.
Oh oui. Moi, j'ai, vous savez, j'ai une grande tendresse pour pour les gens, je dirais, j'allais dire intelligent, mais c'est pas ça, intelligent du cœur, quelque
voilà,
part.
Voilà.
J'ai une grande tendresse pour les gens qui ont gardé l'humain, quoi. Et c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les contradictions. Je veux dire, Augustin, il est plein de défauts, il a dû vraiment... ça devait pas toujours être marrant d'être avec lui, c'est sûr, mais en même temps c'est quelqu'un qui est plein d'amour, et moi je m'intéresse beaucoup aux gens comme ça qui sont très ambivalents, qui sont avec plein de contradictions mais qui s'en rendent compte quand même, qui voilà, qui travaillent sur eux, enfin je veux dire qui ont un regard sur eux.
Oui, des gens qui se posent des questions et sur ce qu'ils voient et sur eux-mêmes en même temps, ce qui leur permet de garder ce doute qui est quand même si important pour notre espèce, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient en ce moment. Mais
ben, je pense que justement, c'est ça aussi. On est dans une société où, en plus, on n'a pas le droit de douter. C'est culpabilisant de douter, je trouve. Il faut être sûr de soi, il faut foncer, il faut voilà, il faut tout écraser pour y aller. Et moi, je supporte pas ça.
Alors donc, on a parlé de cette bande de gens un peu âgés. Et puis il y a un personnage qui, lui, pendant quelques dizaines de pages, c'est une petite punkette.
Oui.
Qui s'appelle Clémence, hein, et qui fiche un peu la pagaille dans la maison de retraite organisée par ces gens qui doivent avoisiner 70 ans. Pourquoi c'est vrai qu'il y a toutes les utopies de 68 et tout, mais on aurait pu imaginer 2018 et puis un groupe de punk et puis des morts dans ce groupe de punk ou une révolte ou quelque chose. Pourquoi avez-vous glissé sur des personnages un peu anciens?
Parce que j'avais plus de choses à dire par rapport à ces personnages, dans la mesure où, bon, moi je suis pas tout à fait de 70, hein, il me manque, de 68, il me manque quelques années. Voilà, pas beaucoup, hein, mais je sais que je suis pas une vraie 68arde. D'ailleurs, je me moque un peu de moi dans le bouquin, parce qu'il y en a une aussi qui est plutôt dans mes âges. Et je trouvais plus... J'ai énormément d'amis, par contre, qui sont des purs 68ards, qui sont vraiment des vrais baby-boom, quoi. Et disons que c'était une façon un peu de retransmettre des choses qui me sont dites, des choses que je perçois. C'est ça, les punks que je connais moins bien que j'ai des enfants et donc j'ai côtoyé aussi ce milieu... sans le vouloir forcément d'ailleurs, mais je me sentais moins en droit de parler d'un milieu que je connais moins. Voilà, je préfère rester dans ce que je connais de l'intérieur.
Il vous paraît parler plus juste avec cette génération-là en fait,
oui,
par rapport
oui.
à leurs aspirations et leurs utopies.
Tout à fait. Et la petite punkette dont je parle, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée d'une jeune fille, par contre, qui était beaucoup ici, parce que c'était une amie de mon fils. Et donc, là, c'est pareil. Je veux dire, cette jeune fille absolument adorable, bien qu'elle soit punk, bien qu'elle soit absolument...
Mais vous ne pouvez pas dire bien que, il y a des... Ils sont très fréquentables, souvent.
Bien sûr, ils sont très, très, très fréquentables. Mais, disons que au premier abord, des fois, il peut y avoir comme un petit mouvement de recul. Après, quand on connaît, alors là, justement, moi, je voulais un petit peu aussi rendre hommage, si je peux dire, à toute cette génération actuellement, ces jeunes, beaucoup de ces jeunes qui sont complètement déroutés, qui ont l'impression que, bon, l'avenir, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a rien. Nous, on avait cet espoir. Quand on avait 20 ans, on était portés par quelque chose. Et moi, je sens un désespoir absolument... incroyable chez plein de jeunes, et c'est ça aussi que je voulais un peu transmettre. Je veux dire, c'est dangereux d'avoir une société avec des jeunes aussi peu confiants dans l'avenir, aussi en dehors quoi de la société, et c'était ça, j'avais besoin d'en parler, parce que mais pas vraiment en les mettant au cœur, encore une fois, parce que je les connais pas suffisamment, sans doute.
Oui, d'ailleurs, vous effleurez sans plonger dans le sujet régulièrement avec, comme je l'ai dit au début, les enfants et les petits-enfants de la tribu, en fait. Et c'est vrai qu'il semble y avoir d'un côté une incompréhension, et puis d'un autre côté, il y a de l'aide, il y a du respect, il y a quand même beaucoup de choses. Mais faut qu'ils bougent un petit peu, quoi.
Oui, en même temps, il y a de la confiance, quoi. Je crois que c'est ça, surtout. Je crois qu'il faut faire confiance. il faut aider et il faut faire confiance parce que le temps aussi permet quand même beaucoup de choses quoi. Moi je crois que c'est ça, il faut pas fermer la porte.
Alors justement le temps, vous diriez que vous avez une petite prédilection un peu pour ces gens du troisième âge, oui. Disons, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont peut-être acquis une sérénité, ou puisque dans un autre roman, pas le précédent, mais il y a quelques années, était paru Pantémor, où il y avait déjà une adorable personne de troisième âge à qui il arrivait bien des vicissitudes à cause de quelque chose dans le frigo. Et il y avait déjà une très très belle description de ces personnages-là.
Oui, c'est moi j'ai un attachement aux personnes âgées. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'ai pas eu de grands-parents, mes parents sont morts quand j'étais jeune, donc je n'ai pas en fait réellement de référence. C'est peut-être une idéalisation hein, quelque part. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me dis une vie, ça sert quand même à accumuler des choses, ça sert à accumuler des expériences, des sensations, des sentiments, et ils ont tous quelque chose à apporter, quoi. Et ça, j'en suis absolument persuadée.
Ouais. Et on pourrait presque dire que c'est la conclusion de celui-là, c'est-à-dire que finalement, ils vont forcément apporter quelque chose à la société, Augustin et toute la bande de la maison de retraite, comme vous avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est sûr qu'ils... Ben oui, forcément. Hein,
On n'a pas mis en quarantaine tous les vieux qui ont plus de 40 ans, comme la chanson le disait à l'époque.
Oui, une fois j'avais vu un tag sur un mur, c'était la peine de mort à 60 ans, voilà. Et ça m'avait fait un peu gloupe quand même. Hein,
oui, effectivement, oui.
Oui. C'était un peu rude, quoi.
Ceci dit, c'est une question que malheureusement certains se posent. Vous avez parlé de faire confiance. Deux mots sur l'éditeur. Une belle idée aussi, Krakoen.
Ah oui, alors Krakoen, c'est en fait c'est une maison d'édition, une coopérative d'auteurs-éditeurs, dirons-nous. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas un éditeur qui tient les rênes. On est plusieurs auteurs qui se sont regroupés et on travaille chacun sur les manuscrits des uns et des autres. On met de l'argent en commun. Après, chacun met plus ou moins selon ses bouquins ou quoi, mais c'est une coopérative, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, on essaie, je trouve que ça correspondait parfaitement à Dola, justement, qui refuse le système libéral. Là, on est complètement, nous, avec notre coopérative, en dehors du système libéral. Et pour la première fois depuis que j'écris, disons, mes bouquins, quand je les vends, eh ben, je touche l'argent de mes bouquins, ce qui est quand même relativement rare.
Et malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que c'est pas du tout l'idée qui en transparaît des quelques fois où on parle dans certains médias des livres, c'est pas si fréquent que ça. Et puis c'est vrai que vous êtes des spécialistes de la littérature, donc on était aidés d'autres écrivains, je trouve que c'est une très très belle idée. Et puis ça doit... C'est vrai que nous, on connaît, on a rencontré Max Aubion qui essaye de fédérer un petit peu cette idée.
Et oui, qui est le responsable, si on peut dire. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un.
Oui. Il faut qu'il y ait un chef, non mais.
Il faut quand même, oui, on s'amuse beaucoup là-dessus. C'est notre chef, hein, voilà. Ceci dit, il n'y a pas une décision qui est prise par lui sans avoir consulté tout le monde. Le moindre, par rapport à mes bouquins, si je veux faire rééditer, il m'envoie un mail, il me dit, voilà, il m'en reste tant, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on fait. Il faut quelqu'un qui gère un peu tout ça, mais chaque fois, tout est décidé, les couvertures de bouquins, tout est décidé, quoi, ensemble.
D'ailleurs, tiens, je n'avais pas parlé, mais c'est vrai que la couverture est à la fois mystérieuse et très, très attractive. Voilà, ben, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Et je voudrais encore redire à quel point ce livre m'avait enthousiasmée, aussi bien dans le style que par l'histoire racontée. Et puis, on se sent très, très proche de ces personnages. Donc, c'est un livre qu'on recommande chaudement. Françoise Laurent, merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt.
À très bientôt, Corinne.
Merci, au revoir.
Au revoir.
18h30 sur Agora FM, excellent début de soirée, tout de suite l'information régionale.